Are you gonna be much longer?
Give me the date and I move to a new address.
No, I won't stop bothering you. Well,
you know what you'd better do now.
No, I won't stop bothering you. Now is the chance you team up.
Stay connected, I give you that signal.
Now is the chance you go clubbing.
To wake the dead, to light again.
How many hours have put in? How much stuff comes out? How many hours have put in? How much stuff comes out? It's a kind of a constant collecting of data. Well, it's a kind of a constant collecting of data. Whether I'm watching a movie, reading, listen to music, walking around, having a drink, or lost in a daydream, going over again, spying on the web, driving a car, life out mission, playing a bass, talking to a ghost, slaving away to push the bill, shaving legs, or diving on the rock. It's a kind of a constant collecting of.
Et bonjour, Philippe Petit avec vous sur les 3-8 de la Grenouille pour une émission spéciale autour d'un groupe que j'adore, les Hi-Fi Club. Et nous recevons donc Régis Laugier. Salut Régis.
Salut Philippe, merci de nous recevoir.
Écoute, c'est un plaisir. J'étais justement en train de dire à Régis que ma fille adore Hi-Fi Club et danse dessus et chante même certaines phrases.
Oui, c'est à partir de 3 ans notre musique.
Voilà, moi elle a 2 ans et 3 mois. Alors
ouais,
peut-être
mais elle est précoce.
Un peu précoce. Bon voilà, alors Hi-Fi Club c'est vraiment... un groupe, d'abord c'est un groupe varois, donc vous êtes presque de chez nous, et ce qui fait très plaisir c'est que vous avez une visée qui va bien plus loin que la locale, puisque vous allez carrément à une portée internationale en invitant beaucoup de gens intéressants, voire même importants pour certains d'entre eux, dont on va parler, et qui ont aidé à faire un album qui est quasiment, enfin à mon goût en tout cas, imparable, vraiment...
C'est le principe même du groupe, c'est le principe même du projet qu'on avait déjà initié sur un premier album qui s'appelait French Accent, c'est-à-dire un trio à géométrie variable, on pourrait appeler ça un open trio ou peu importe, trois membres de base qui eux sont présents sur tout morceau et systématiquement en live, et ce trio de base, cette proposition de base, se voit entouré sur scène comme sur disque de 1, 2, 3, voire parfois même plus invités extérieurs. Sans nécessairement de limite de style, c'est-à-dire qu'on a une palette assez large lorsqu'on sollicite un artiste. Ça peut aller de la musique la plus expérimentale à la musique la plus pop au sens populaire du terme. Donc effectivement, quelque chose de très très large dans la proposition.
Donc justement, sur ce premier disque, je crois que vous aviez un guitariste renommé, puisqu'il a joué avec David Bowie, entre autres choses. Et vous avez même fait un concert avec lui, j'ai ouï dire, à Mars Attack.
Ouais, c'était une expérience assez intéressante. En tout cas, je m'en rappelle avec beaucoup de plaisir. Earl Slick donc avait participé à notre concert Mars Attack. C'était la première fois qu'on tentait l'expérience d'un invité donc extérieur au trio dans un cadre live, hein. Donc évidemment on l'avait fait sur le disque qu'on défendait à l'époque à Mars Attack, mais sur scène c'était pour nous une nouveauté. Ça s'était passé extrêmement bien, petite résidence au préalable de 2-3 jours qui avait permis à Earl Slick d'intégrer la douze quinzaine de titres qu'on avait dû interpréter ce soir-là. Et puis ça s'était tellement bien passé qu'on a décidé de reconduire très régulièrement ces expériences-là, aussi en live, même si le systématisme existait déjà sur disque. Donc on a reconduit l'expérience avec Jam Chance et Robert Aaron surtout, à l'occasion du Midi Festival 2008. Festival, ouais. On a pu le faire avec Legendary Tigerman pour diverses émissions radio, notamment il y a un an ou deux. Et puis j'espère qu'on le fera en one shot ou pas avec d'autres invités dans les mois qui viennent.
Alors donc avec James Chen, c'était plus en accompagnement de sa musique, mais par contre avec les autres, c'est eux qui se mettent au service de votre musique.
Oui, c'est l'idée de base, avec une très grande liberté dans l'interprétation, c'est-à-dire que le trio imagine, forge, dessine quasiment le carcan, en tout cas dans le minutage du morceau et dans sa structure. Une fois que cette base-là est posée, la personne qu'on sollicite pour l'intervention, eh bien, a toute latitude à intervenir et mettre ce qu'elle a envie de mettre sur bande. On peut prendre l'exemple de Jean-Marc Montera qui intervient sur notre nouvel album. Jean-Marc joue sur 4 titres. Il avait donc cette base de morceaux, mais ensuite il a très très librement et j'allais dire encore heureux, très librement interprété, posé toutes sortes de lignes de guitare qui pouvaient être parfois du reste très dissonantes ou noise par rapport à la base même rock du morceau. Donc une très très grande liberté dans les choix et dans l'interprétation après.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est possible, Jean-Marc Montera reste quand même bien synonyme justement de liberté en musique, puisqu'il est le directeur du groupe de recherche d'improvisation musicale, donc le nom dit tout, et aussi bien sûr de la salle Montevideo où il y a de super programmation. Et voilà, Jean-Marc est donc un guitariste très libre.
Exactement, on peut dire ça comme ça. Et on lui a laissé la plus grande des libertés, donc il s'est fait plaisir, je pense. C'était okay. Un beau moment.
Donc alors, on vient d'écouter un morceau qui s'appelait Data, qui est extrait de votre second album.
Oui, How to Make Friends.
Voilà, donc tu veux en parler justement, comment tu as fait tous ces amis?
Oui, alors le titre finalement, il s'est quasiment imposé de lui-même. Il résume, je pense, en quelques mots, l'esprit même du projet. Sur le premier album, on avait juste posé l'idée même de collaboration, donc on n'était pas nécessairement allé au bout sur chaque morceau. L'idée était donc, une fois cette première pierre lancée, ce premier jet, eh bien d'aller beaucoup plus loin dans les invités, dans ce groupe à géométrie variable. Et on a pu soit rebondir d'invité en invité, d'ami en ami, soit un petit peu au culot pour certains, aller directement les contacter, que ce soit sur internet ou à la sortie d'un concert, des choses comme ça. Ou d'autres sont parfois revenus vers nous. C'était le cas par exemple de Robert Aaron qui nous a proposé de jouer avec nous sur le deuxième album. Donc il y a eu différentes entrées, tout ça s'est passé de façon très très spontanée. Parfois il y a des petits facteurs chance, des petites choses amusantes, anecdotiques à relayer à tel ou tel invité, mais tout ça s'est passé systématiquement en ne regardant que la musique. Il n'a jamais été question finalement de business ou d'enveloppe ou je ne sais quoi. Il a d'abord été question de musique et d'emploi du temps. L'emploi du temps ayant été quasiment la chose la plus compliquée, la plus complexe.
Il y avait quand même
dans l'avancée du projet.
Tu as quand même eu à payer certains d'entre eux ou...
Non, l'idée est d'intervenir librement, hein, et d'intervenir librement. En gros, on aime ou on n'aime pas la musique. La personne a envie de réagir ou n'a pas envie de réagir. S'il a pas envie de réagir, c'est pas très très grave. S'il a envie de réagir,
je pensais
évidemment
pas à quelqu'un qui joue sur le morceau, mais plus à quelqu'un comme Lee Ranaldo qui produit. En alors, général, un producteur
alors,
va être payé.
Alors bien évidemment, alors ça c'est on est finalement sur une autre phase du disque qui était au-delà de tous les invités de démultiplier les intervenants au niveau de la production et du mixage. Bien évidemment, après là on rentre dans une prestation qui inclut également des locations de studio, des tas de choses comme ça. Donc là on parle plus dollars ou euros, mais fatalement sur une dimension plus technique comme le mixage, ce sont des choses à prendre en compte. Mixage qu'on puisse faire parfois directement chez l'artiste ou le producteur en question, puisqu'on a fait un des temps de l'album dans le studio de Sonic Youth à New York. Mm-hmm.
D'accord, bon, ça c'est plutôt cool. Et en fait, ça crée donc en fait une espèce d'amalgame, puisque du coup, tout le monde parle d'invités. Donc tu as les vrais invités comme le guitariste de Dinosaur Jr. Mm-hmm. par exemple. Mais on va mettre aussi dans les invités prestigieux Lee Ranaldo de Sonic Youth. Mais en fait, Lee Ranaldo produit le disque.
Ouais.
C'est pas tout à fait comme un invité. Mais tant mieux, c'est bien de bénéficier d'un amalgame comme ça. Je trouve ça cool. Moi.
Mais le disque, en fait, il a connu deux développements. Au départ, ça ne devait être entre guillemets qu'un disque simple dans sa facture, dans son approche, c'est-à-dire un seul producteur pour un ensemble de 12-13 titres, peu importe. À force de discuter du projet avec Lee Ranaldo, puisque c'était lui le producteur de base de l'ensemble du projet, on s'est dit que ça serait aussi amusant de démultiplier donc les producteurs. Et donc de un producteur, Lee Ranaldo au départ, on a ouvert la production sur 4 autres producteurs qui sont Don Fleming, effectivement, Captain Michigan et Andrew W.K. Donc d'un album simple, le projet a évolué vers 4 maxi, chacun 4 titres. Et cet ensemble de 4 maxi, au final, a reformé un album unique.
D'accord.
Qui connaît deux vies, une formule un peu petit peu plus light en CD et une formule complète qui sortira le mois prochain en vinyle, en double vinyle.
Ok, donc alors on vient d'écouter donc un des morceaux de How to Make Friends, qui était le morceau d'attaque, je trouve particulièrement tubesque. Et tu as donc choisi, donc je t'avais demandé d'amener des morceaux, des groupes, des gens qui t'ont marqué ou qui te plaisent beaucoup. Et donc tu as donc choisi de nous présenter pour ta première sélection quelqu'un qui joue sur Data.
Ouais, c'est Richard Swift, dont j'avais dû acheter l'album il y a plusieurs années dans un petit rough trade shop à Londres, qui est donc un Américain. Et qui est intervenu sur le morceau Data, en étant encore une fois libre de faire ce qu'il voulait faire, d'ajouter ce qu'il voulait ajouter. Il a ajouté du tambourin, il a ajouté de la guitare et des synthés, si j'ai bon souvenir.
D'accord, eh ben, on va écouter en tout cas un morceau de Richard Swift
qui est extrait de son premier EP, ou dans les tout premiers EP, parce qu'il y en a beaucoup, qui s'appelle The Novocellist.
Mother's looks and father's charm. Oh, love, oh, you're right inside. You'll be again bright with dinner posters and with perfect hair. Your beauty wrapped up in despair. Oh, love, oh, you're right. We'll fail if we just try.
We'll be right back.
Voilà un très joli morceau. Merci pour cette sélection. Et donc, Hi-Fi Club démarre plutôt bien avec ce nouvel album. On voit pas mal d'articles déjà dans la presse.
Des premiers sortent. Ouais. C'est toujours amusant. Je suis assez curieux de voir lequel des quatre maxi sera un petit peu plus aimé, un petit peu plus mis en avant. Ça m'amuse de savoir ça.
Tu crois que c'est possible? Parce qu'en fait, on reçoit ça comme un CD promo. Donc, en fait, est-ce que les gens vont vraiment décomposer que tel titre est sur tel maxi?
Pas nécessairement, c'est juste ce que tu dis, mais pas nécessairement sur la version CD, effectivement. Sur la version vinyle, vu qu'il y aura un maxi par face, ça sera un petit peu plus facile de s'approprier telle partie plutôt que telle autre.
Bien
effectivement,
sûr,
ouais. Sur la version vinyle, ça sera un petit peu plus clair. Mm-hmm.
Et tu attaches beaucoup d'importance aux critiques, aux chroniques, tu les lis, tu...
Les lire, oui. Y attacher beaucoup d'importance... Peut-être inconsciemment, mais en tout cas consciemment, non, je pense pas. D'autant plus que sur le premier album, on avait pu, ou dans d'autres discussions entre les deux disques, on avait pu évoquer presque de façon négative le fait d'avoir beaucoup d'invités, c'est-à-dire peut-être de ne plus après reconnaître précisément qui était qui dans le groupe, ce qui moi m'amuse particulièrement. Je sais que ça reste notre musique. Ça reste d'abord un trio autour duquel gravitent d'autres électrons plus libres. Donc ces critiques-là qu'il y avait eu, que j'avais pu entendre il y a un an ou deux, finalement, je les ai peu écoutées puisqu'on a creusé encore plus la piste initiale.
Oui, quelque part, de toute façon, savoir qui fait quoi, enfin, personnellement, c'est pas ça qui m'intéresse.
Non, moi non plus.
T'écoutes un morceau, il est bien ou pas, tu vois, voilà. Après, on peut être intéressé par, je sais pas, telle partie de guitare ou telle autre. Ok, là, on peut peut-être pousser un peu plus loin, mais enfin bon. Ouais. Et quel regard tu portes sur ta musique? Je pense que bien sûr que tu vas aimer cet album, mais enfin, avec un peu de recul, est-ce qu'il y aurait quelque chose à refaire ou est-ce que c'est pleine satisfaction?
En tout cas, là, à 10 jours de la sortie, c'est beaucoup, beaucoup de satisfaction. Ça a été un projet très lourd à mener. Tout à l'heure, on parlait des emplois du temps. Effectivement, ça a été à un moment donné le nerf de la guerre avec cette vingtaine d'invités, d'emplois du temps compliqués, avec des deadlines relativement rapprochés pour finir un maxi après l'autre et au final regrouper tout ça dans un album sur lequel on a pas mal réfléchi au niveau du graphisme de la pochette, de l'installation même qui figure sur la pochette du disque. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de satisfaction. Peut-être que j'aurais pas le même regard et certainement pas le même regard dans quelques mois, j'allais dire quelques semaines, mais en tout cas dans quelques mois. Aujourd'hui, c'est beaucoup de satisfaction, ce ne sont que de belles rencontres où tout s'est extrêmement bien passé et ça, c'est vraiment assez, assez remarquable. Et c'est peut-être le moment aussi de remercier tous ceux qui ont participé au disque.
En tout cas, il y a une chose qui m'a tout de suite sauté aux oreilles et même très très agréablement surpris, justement parce que c'est rare en France, c'est un excellentissime accent anglais, donc justement en rapport avec ce French accent, titre de votre premier disque, là arrive un CD, enfin, ou un vinyle, donc peu importe, mais où l'accent est très très bon, et sur le morceau qu'on va d'ailleurs écouter tout à l'heure, tu te permet même de réussir à dire très parfaitement « make a wish, witch », qui est très difficile à dire pour un Français pas rompu avec l'anglais. Quoi. Donc ça vient d'où? Tu as étudié l'anglais?
Non, pas spécialement. J'ai étudié l'anglais comme quelqu'un qui a eu un parcours de collège, lycée, faculté. Sans plus que ça. En revanche, entre les deux disques, on a eu l'occasion et le plaisir de faire pas mal de rencontres d'étrangers, notamment d'anglais ou d'américains. Ce qui a amené aussi à beaucoup communiquer en anglais, y compris à l'oral, et de se déplacer aussi dans les pays en question. Alors évidemment, c'est un petit peu simple comme réflexion, mais on peut aussi se renvoyer à ce que disait son prof d'anglais en disant qu'il n'y a que la pratique qui compte finalement, c'est ça.
C'est très vrai. Très très vrai. Donc on écoute tout de suite ce morceau, Make a Wish Witch. Yeah. Make a wish, witch. Donc voilà, fais un vœu, sorcière. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce titre aussi. Donc tout à l'heure, enfin en début d'émission, je parlais du côté imparable et des mélodies de Hi-Fi Club. Et je crois que ça, ça en est encore un bel exemple. Enfin, c'est pas à toi de répondre. Hein. C'est juste, je parle tout seul. Voilà, je parle un peu tout seul, quoi. Donc alors, en parlant de sorcière, tu as des invitées féminines sur ce disque qui chantent avec toi. Et comment tu les as choisis? Puisque alors nous avons d'un côté Jessie Sykes qui est américaine et c'est pas mal illustré dans les musiques plutôt expérimentales, on
folk,
va dire folk, voire
sombre.
Même très sombre avec Sun ou des choses comme ça. Et d'un autre côté c'est Lio.
Ouais. Bah c'est on pourrait imaginer un sacré grand écart. Qui finalement peut-être artistiquement à la base ou dans l'idée en est un, mais tout ça c'est fait de façon tellement spontanée que je n'ai pas nécessairement réfléchi à un éventuel grand écart. Effectivement Jessie Sykes qui est sur un côté beaucoup plus sombre que Lio, hein, de la musique. Lio étant venu très, très simplement, j'allais dire, participer au disque sur trois morceaux, et puis au final un de ces trois là a terminé sur son best-of qui était sorti il y a un an ou deux comme morceau inédit, donc on l'a pas réutilisé pour le disque alors qu'initialement il était destiné à cet usage là et puis deux autres morceaux sur les deux, il y a du reste ce qui constituera peut-être un jour un inédit, une participation de Lio au morceau qu'on vient d'écouter, Wish Witch, qui a été au départ enregistré avec elle, et puis un autre qui me paraissait bien plus amusant de laisser sur le disque, qui est un autre morceau, What If, qui a aussi été enregistré avec Jean-Marc Montera. Donc le grand écart là était encore plus significatif qu'avec Jessie Sykes, du reste. Ce qui m'amusait dans ce morceau là, qu'on n'écoutera peut-être pas, mais que ceux qui achèteront le disque ou qui l'écouteront noteront peut-être, c'est que c'est un morceau assez, pas punk, mais en tout cas extrêmement énergique, avec un tempo très élevé et des voix qui sont assez en avant et voire quasiment criées, ou si elles ne sont pas criées, elles sont poussées un petit peu à l'extrême pour derrière. Et donc cette participation de Lio là dans un registre sur lequel je ne l'ai jamais vraiment entendu et pour lequel elle était très heureuse d'intervenir, nous disant que c'était une des rares fois dans sa carrière où elle avait eu pleine liberté à intervenir. Ce morceau-là était amusant à laisser sur le disque. Voilà, juste pour ce petit grand écart.
Donc on a parlé du choix des intervenants et on va tout de suite en écouter un.
Ouais, Matt Season, alors ça fait le lien finalement avec Wish Witch, puisque sur ce morceau là aux percussions, au xylophone et au saxo, il y a un américain de Seattle qui s'appelle Skerrick, que j'aime beaucoup et qui joue dans des groupes très souvent instrumentaux comme Critters Begin par exemple, qui est un excellent groupe qui a sorti son premier disque dans les années 90. Et Skerrick a participé à ce projet qui pour moi compte énormément dans les disques des années 90, qui s'appelait plutôt Mad Season, qui regroupait des membres des Screaming Trees, qui regroupait le chanteur d'Alice in Chains, le guitariste de Pearl Jam, enfin en tout cas un album qui m'avait beaucoup touché, aussi parce que c'était un one shot et que j'aime le principe du one shot dans les disques. Voilà, Skerrick intervient aussi sur le morceau qu'on va écouter maintenant.
C'est parti.
So much blood, I'm starting to drown. Runs from cold to colder. Time to time, the sky's coming down. Help me lose my way. Tears and lies for answers. Gone day.
Ah, encore une fois, un très joli morceau. Et en plus, quand tu parlais des gens qui font partie de ce groupe, entre guillemets, issus d'une scène, on va dire, grunge, mm-hmm. Seattle, et, ou voire même presque métal, on ne s'attend pas à ça, en fait.
Non. Notamment grâce à l'intervention de Mark Lanegan, qui est assez extraordinaire à chaque fois dans chacune de ses participations. Mark Lanegan, qui serait un possible membre pour un prochain disque, ce qui serait assez extraordinaire pour nous.
Ouais. C'est clair que c'est quelqu'un qui a une voix fantastique, ouais. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Hi-Fi Club? Quelle est l'actualité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un concert bientôt prévu? Je crois qu'il y en a même deux.
Oui. Il y a plusieurs petites étapes qui vont nous mener gentiment vers l'été. La tournée, au sens plus structuré, devant avoir lieu plutôt sur la rentrée de septembre-octobre. D'ici là, quelques dates, dont notamment une liée à un événement assez important pour nous dans l'année, qui aura lieu le 28 mai, et ce pendant 2 mois, qui est une exposition sur laquelle nous travaillons avec l'artiste Arnaud Maguet, qui est un performeur, musicien, plasticien et qui intervient notamment à la Villa Arson à Nice. Et avec Arnaud Maguet, donc, on a décidé de faire une exposition ensemble qui est dévoilée le 28 mai à la Galerie des Remparts à Toulon. Et à cette occasion-là, nous avons travaillé sur 4 morceaux qui sont parfaitement situés dans le prolongement du disque à propos duquel nous parlons aujourd'hui et qui sont en fait 4 remixes. Chacun des remixes ayant été fait par les producteurs, par un des producteurs à chaque fois du disque How to Make Friends. Donc Lee Ronaldo a fait un remix, Don Fleming en a fait un, Andrew W.K. également, et Captain Michigan, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, en a fait un dernier. Donc cette base de 4 remixes participe à l'exposition avec Arnaud Maguet. Et le soir même de cette exposition-là, le 28 mai, nous ferons un concert avec Young Michelin, qui est un groupe de Marseille, je crois. En tout cas du coin, donc à Toulon, à la salle Les Variétés, à 20h30 ou 21h, bon, peu importe, en tout cas, ceux qui veulent en être informés pourront facilement l'être en allant sur le site midi-festival.com.
Donc c'est un concert organisé par Midi. Midi, ouais, n'est pas qu'un festival, Midi fait aussi des concerts très régulièrement à Toulon.
Exactement, alors avec une belle année 2010 pour Midi, Au-delà donc du festival d'été pour lequel Midi est connu, au-delà des concerts maintenant qui font le lien dans l'année, Midi organisera un festival d'hiver à Toulon, à la fois à l'Opéra et à la piscine municipale olympique du Pont-Marchand. Donc un nouveau rendez-vous, une nouvelle étape dans le calendrier Midi en fin d'année, en décembre.
Alors en fin d'année, en novembre, il y a eu aussi le Festival International des Musiques d'écran, qui est fait par le batteur avec lequel tu joues.
Exactement, hein. Luc Benito a ce festival-là qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et nous avions eu du reste vraiment beaucoup de plaisir à t'inviter avec Midi. C'était une soirée commune, Festival International des Musiques d'écran et Midi. Donc sur un principe du ciné-concert, c'est-à-dire projection d'un film le plus souvent muet, ou d'un film ou de vidéo plus exactement, sans son, et le tout diffusé avec un accompagnement musical qui lui aussi peut être extrêmement varié, de la musique la plus expérimentale à la musique la plus orchestrée, puisqu'on a l'occasion de faire certains ciné-concerts avec l'orchestre de l'Opéra de Toulon.
D'accord, oui, c'est excellent. Enfin, donc j'avais eu beaucoup de plaisir à y venir et passer une excellente soirée, puisqu'en plus, avec nous, enfin après nous, avaient joué Radio Mental, Jean-Yves Leloup et Eric, que j'aime beaucoup et qui pour moi sont ce qu'on appelle des DJ vraiment différents et intéressants, quoi.
Ah oui, c'est une très belle soirée.
Voilà, donc vous êtes vraiment en fait au cœur de ce qui se passe dans la région du Var, c'est certain, puisque donc il y a ce festival, le Festival International des Musiques d'écran, IFI Club, il y a aussi le Midi Festival dont tu as commencé un peu à parler, et on va bien sûr en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais donc il y a aussi un groupe, on va les écouter tout à l'heure aussi, mais on va juste brièvement les nommer, qui est Get Back Ginosy, qui a un petit buzz comme ça autour, dont vous faites là à peu près tous partie.
Quasiment, c'est-à-dire qu'avec ce groupe-là, Get Back Ginosy, est formé initialement par un duo, Frédéric, donc du Midi Festival, Frédéric Landini, et notre ami Eglantine Gouzi, ça c'est le duo de base. Et puis dans son développement, notamment sur scène, Luc Benito et moi-même, donc la section rythmique d'IFI Club, forment également la section rythmique de Get Back Ginosy, avec des envies maintenant d'enregistrement pour le deuxième album de Get Back Ginosy, au-delà donc du duo sous la forme du groupe actuel de scène.
D'accord, très très bien. Donc on va écouter un morceau encore pour finir avec IFI Club. On va en écouter un autre morceau. Il n'y a pas une date prévue sur Marseille ?
Il y en avait une qui a été décalée. Ah, donc ça aurait pu être en mai, et cette date-là est décalée sur un moment dans l'année que je ne connais pas encore.
D'accord. Bon, bah, en tout cas, on écoute un morceau que je trouve personnellement presque très crampsien. Voilà, c'est un peu l'effet que ça m'en a fait, en tout cas.
En tout cas, on fait le lien avec Jesse Sykes, voilà, qui intervient, dont on parlait tout à l'heure, et qui chante avec moi sur ce morceau-là. Également Robert Aaron, qui est quelqu'un de très important pour nous, qui est quasiment le quatrième membre du groupe, puisqu'il intervient à la fois sur le premier album, sur le deuxième, et plusieurs fois en live avec nous. Et puis Steven Bernstein, qui est ce trompettiste avant-garde, qui joue notamment dans Sex Mob ou pour d'autres projets, notamment parfois liés à John Zorn ou au label Zadig, et qui a fait les arrangements cuivre pour la fin du morceau qu'on va écouter.
C'est parti.
It would help me out if you let us pray. It would help me out if you let us pray. Yeah, I'm a lonesome baby, I am a lonesome. Who put a piece of you in my suit? Lonesome machine gun.
Donc un nouvel, enfin en tout cas de nouveaux morceaux bien en préparation et même assez avancés déjà. Tu me parlais d'une collaboration avec Mike Watt,
ouais,
bassiste des Minutemen et enfin actuellement très connu par chez nous puisqu'on l'a pu le voir avec les Stooges.
Ouais. Alors ces morceaux-là n'interviennent pas dans le cadre d'Ifi Club. C'est un projet qu'on pourrait appeler parallèle et qui regroupe donc Frédéric Landini de Get Back in Ozzy Midi Festival. Stevie Moore, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une espèce de papy, en tout cas de pape, on va dire, de la Lofi ou du Do It Yourself, de cette scène-là, qui a plus de 400 disques à son actif, qui est le fils de Bob Moore, qui a notamment été très longtemps le bassiste d'Elvis, et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, en tout cas à connaître par le biais de YouTube, pourquoi pas, puisqu'il a plusieurs centaines de vidéos qu'il a pu faire depuis les années 70 et surtout dans les années 80, où il a eu une période très très intense en France, signé sur Neurose pour 3-4 disques, je crois. Enfin, quelqu'un de très vraiment passionnant. Et puis, effectivement, ma participation à ce quatuor et le dernier membre étant Mike Watt. Mike Watt, qui est un personnage important pour moi et dont le premier album solo, hein, je ne parle pas des Minutemen ou d'autres groupes qu'il a pu avoir après, le premier album solo de Mike Watt qui est très très important pour moi puisqu'il m'a finalement, à son écoute, hein, quasiment glissé l'idée même du Hi-Fi Club, c'est-à-dire, bon, pour Mike Watt c'était une seule personne, nous sommes trois, mais c'est-à-dire une racine constitué de un ou plusieurs musiciens et sur chaque morceau des interventions extérieures et très 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 libres. Le premier album de Mike Watt, pour ceux qui l'ont, va du funk le plus dingue à la musique beaucoup plus noise. Donc ce premier album là est une étape importante dans mon parcours de musicien et surtout dans la réflexion même autour du projet Hi-Fi Club.
D'accord, donc quelque chose qui montrait bien que collaborer est plus que nécessaire.
Exactement.
Ouais, plus que nécessaire. Donc Get Back in Ozzy maintenant et Midi Festival. Fred n'a pas pu venir, mais bon, tu peux tout à fait nous l'excuser aussi. Tu peux tout à fait nous en parler. Donc alors Get Back in Ozzy, puisqu'on a commencé déjà tout à l'heure, est signé sur un label extrêmement prestigieux, enfin pas extrêmement prestigieux, mais enfin suffisamment prestigieux pour que ça ouvre beaucoup de portes, qui s'appelle Fat Cat,
ouais.
Et un label que personnellement j'aime vraiment beaucoup.
Oui, alors c'était évidemment une belle étape, hein, dans la courte carrière, il y a de cela que 2 ans maintenant, 1 an, 2 ans, de Get Back in Ozzy, que de signer sur ce label-là qui a pu compter des groupes comme Animal Collective ou Sigur Rós, Moom, des choses comme ça. Donc Frédéric en était lui aussi très très heureux. Pour le moment, tout se passe très bien. Des singles sont même sortis en vinyle en parallèle de cette sortie-là. On a pu avoir des petites sessions en campagne de promo en Angleterre qui étaient vraiment agréables, avec des 3-4 concerts par jour. Donc c'était une expérience assez enrichissante. Et on espère en tout cas pouvoir continuer dans cette même dynamique-là avec Get Back in Ozzy en travaillant sur un deuxième album dès l'année 2010.
Donc vous jouez beaucoup ?
En tout cas, on répète plutôt pas mal en ce moment. On a eu l'occasion d'enchaîner quelques concerts plutôt, pas nécessairement dans la région, hormis un concert à Toulon, mais beaucoup de concerts, en tout cas un certain nombre de concerts en Angleterre notamment.
Donc, ce qui ne rend pas peut-être forcément les choses faciles en termes de répétition, c'est que la chanteuse Glendine Gouzy n'habite pas vers chez nous. Elle est, je crois, en ce moment en Angleterre.
Exactement. Elle habite Londres. Alors, ça ne facilite pas les choses, effectivement. Ça ne les facilite pas du tout, même. Même si le groupe, en tout cas dans sa partie instrumentale, tout le monde habite Toulon. Ouais. Donc, c'est assez simple de faire avancer des morceaux d'une façon instrumentale. Et après, on fonctionne sous le principe quasiment de la résidence ou de la petite résidence où Eglantine peut venir sur une série regroupée de jours et ensuite faire ses interventions vocales sur les morceaux qu'on a largement préparés en amont.
Vous financez comment toutes ces répétitions? Depuis tout à l'heure, en fait, tu parles de résidence, mais bon, ça coûte quand même de l'argent. Vous arrivez à financer ça comment?
Là, ça, quand je parlais de résidence, je m'étais permis de rajouter petite résidence, c'est-à-dire que c'est finalement la simple venue d'une personne de l'Angleterre ou de Londres, donc à Toulon, donc c'est le prix d'un billet d'avion, ouais, et la fréquence n'est pas très malheureusement d'ailleurs, n'est pas très rapprochée dans le temps, donc ça reste encore aujourd'hui auto-finançable.
D'accord, très bien. Donc on va écouter un morceau de Get Back Guinozzi.
Qui s'appelle Sick.
Un album d'ailleurs qui a été playlisté par Radio Grenouille, qui est passé beaucoup sur l'antenne et qui a donc rencontré un certain succès auprès de vous, les auditeurs. Pour le rappel, en tout cas pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, je reçois Régis Laugier pour surtout sa participation à Hi-Fi Club, mais aussi donc à Get Back Guinozzi, au Midi Festival et autres.
Jungle, I'm on the bench control. Oh, get mixed up. I am fucked up. My clan knows it's my friend. Jungle, I'm on the veg control. Oh, get mixed up. I'm stuck.
Get Back Guinozzi, premier album donc,
Carpet Madness,
qui rencontre un certain succès et vous avez déjà commencé à penser très sérieusement à la suite. Donc
on est dessus, c'est-à-dire qu'on est sur un petit pool là, de X morceaux qui nous servent de base de travail pour un deuxième album. Ouais.
Il y a un contrat signé avec Fat Cat pour plusieurs albums ou pas spécialement?
Fat Cat, et vu l'état d'industrie du disque aujourd'hui, s'engage pas sur non plus une durée extraordinaire. Fat Cat, évidemment, donc a signé ce premier album là et a engagé une option assez forte sur le deuxième. Après, des options, elles tombent quand elles veulent. Bien tombé, donc c'est à voir.
C'est donc à voir, ok, d'accord. On a commencé à parler du Midi Festival. Alors, il y a quand même des personnes qui sont autour de Midi Festival, je parle d'artistes en tout cas, qu'on voit presque chaque année, soit sur la scène, soit hors de la scène. Et parmi ces personnes, il y a Michael Bennett, ouais. Captain Michigan.
Captain Michigan ou d'autres noms. Captain Michigan qui est quelqu'un d'important dans l'histoire du Midi Festival, qui avait participé doublement à la première édition, sous le nom de Captain Michigan tout d'abord, et ensuite dans le cadre de son autre projet qui a pour nom Super Reverb.
Avec le musicien Kuhn, voilà, Jürgen.
Exactement, et donc il vient de terminer un deuxième album avec Super Reverb, il me l'a adressé hier, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Et Michael était revenu deux ou trois ans après, toujours dans le cadre du Midi Festival, mais cette fois à la Villa Noailles, dans un autre cadre, en tout cas pour un autre projet qui a pour nom Beautiful Newborn Children. Ouais. C'est un projet qu'il a avec sa femme et en quatuor.
Très punk.
Ouais, que j'aime beaucoup, qui était signé sur Domino. Et Michael reviendra apparemment plutôt seul, donc sous le nom de Captain Michigan, dans la perspective, dans le cadre du prochain midi de juillet prochain, c'est-à-dire 23, 24, 25 juillet.
Donc retenez bien cette date, bloquez la période sur vos calendriers, fin juillet 23, 24, 25, le Midi Festival, ailleurs à la Villa Noailles.
Exactement.
Alors, tu travailles à la Villa Noailles ?
J'y travaille, et Frédéric aussi.
Et Frédéric aussi, vous y faites quoi ?
Frédéric est le régisseur, moi j'en suis l'administrateur.
D'accord. Donc, ça touche de très près à toutes les expositions, enfin tout ce qui peut s'y passer. Tu veux nous en parler un peu de tout ce qui se passe à la Villa Noailles ?
Oui, pourquoi pas, très rapidement. Donc, la Villa Noailles, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un centre d'art qui a été un très haut lieu durant les années 20 et durant les années 30, très haut lieu de l'art. Qui était un lieu voulu par un couple de mécènes, Charles et Marie-Laure de Noailles, et dans lequel sont passés des artistes aussi puissants et reconnus que Man Ray, Cocteau, Buñuel, Poulenc, Brancusi, Giacometti, la liste Dali, Picasso, la liste est assez impressionnante et c'est difficile d'être exhaustif sur son histoire. Du reste, on rendra hommage à son histoire et à ses commanditaires, Charles et Marie-Laure de Noailles, en inaugurant une exposition qui se voudra permanente à partir du 2 juillet prochain et de façon concomitante avec l'ouverture d'un de nos festivals qui s'appelle Design Parade.
D'accord.
Festival de design.
Ok, excellent. Très très bien, on aimerait beaucoup avoir un lieu comme la Villa Noailles à Marseille. Mais bon, voilà, l'art contemporain, enfin, cette forme-là d'art contemporain n'est pas extrêmement présente à Marseille, quoi. Voilà, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, alors, on a parlé de Captain Michigan. D'autres personnes que tu pourrais nous annoncer en présent au Festival Midi de cette année ?
Alors, en espérant ne pas faire d'erreur, Lone Lady, qui est visiblement confirmé, et un groupe que Frédéric Landini aime beaucoup, qui a pour nom les Strange Boys. Qui du reste était un groupe, qui est un groupe qu'on a croisé avec Hi-Fi Club au South by Southwest, puisqu'on on vient d'y jouer au fameux festival texan, et ils ont remporté un très très beau succès.
C'est un peu l'équivalent du Midem, mais en version américaine.
Ouais, c'est un festival à l'échelle d'une ville, et à l'échelle d'une ville américaine, c'est-à-dire que c'est complètement démesuré, avec des centaines de groupes programmés, et surtout, ce qui est très peu envisageable chez nous, des dizaines et des dizaines et des dizaines de lieux de diffusion qui vont de la vraie salle de concert du Zénith en passant par la salle moyenne, voire la petite salle, mais jusqu'aussi dans des pizzerias, dans des bars, dans des boutiques de design, chez des coiffeurs. Tout lieu possible de concert devient effectivement un lieu de concert.
Donc il y a un côté fête de la musique en fait.
Il y a un côté fête de la musique complètement démesuré, ça va presque jusqu'à l'écœurement tellement qu'il y a de propositions. À un moment donné, on ne sait plus où aller, quoi faire et ne pas faire. Pour donner un exemple, tu pouvais même voir Lou Barlow de Dinosaur Junior, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, beaucoup, jouer dans une pizzeria. Donc ça n'enlevait rien du tout à la performance, mais ça créait des files d'attente de 500 mètres pour 50 personnes à l'intérieur. Donc tout est basé sur l'attente, et cela de façon très, très hiérarchisée, puisque tout se fait à l'américaine.
D'accord. Donc voilà pour le Midi Festival, fin juillet, on le rappelle, à la Villa Noailles, et à ne pas manquer.
Avec ce petit concert de midi concert le 28 mai prochain.
Ouais, tout à fait, donc Hi-Fi Club. Bon, ben ça c'est super. On va donc passer un remix de Captain Michigan, qui jouera au Midi Festival, lui aussi, et qui a ici remixé donc le Hi-Fi Club sur un des maxis à venir.
sur, il a remixé un des morceaux de l'album, qui est celui qui clôt la version CD, Catfish, qui est un morceau instrumental, et Michael, Captain Michigan, est allé très très loin dans le remix, donc il a créé quasiment un nouveau morceau. Presque on pourrait dire ça, puisqu'il a réécrit même des paroles. Voilà, et juste pour la petite anecdote, puisqu'on tient beaucoup à Michael et à Captain Michigan, c'est lui qui a produit le Get Back In Oz également.
Voilà, Captain Michigan, Michael, qui juste m'a envoyé un message de toute façon hier pour me demander s'il y aurait peut-être moyen de faire un concert à Marseille. Donc on va essayer de lui trouver quelque chose, bien que ce ne soit pas toujours très facile de, malheureusement, de jouer par chez nous, surtout en juillet, parce que c'est ça le problème, c'est surtout que c'est en juillet où tout le monde ferme les portes, et c'est normal puisqu'ils doivent goûter un repos bien mérité après une année de programmation. Voilà, et vous aussi d'ailleurs, vous devez goûter un repos bien mérité après nous avoir écoutés. Merci Régis.
Merci à toi Philippe, à très bientôt.
Et rappel, How to Make Friends de Ify Club à ne pas manquer. Merci.